Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De nouvelles actions d'agriculteurs. Le Havre, La Rochelle, région lilloise, Toulouse. Encore, ils ont levé le camp à Bayonne, mais protestent à nouveau contre le Mercosur. Les secours appellent à la prudence encore et toujours à la montagne. Risque d'avalanche élevé après la mort de 6 skieurs durant le week-end dans les Alpes. Et les États-Unis, question, vont-ils intervenir ou négocier en Iran en pleine contestation? Là-bas, Donald Trump a pris la parole durant la nuit.
Les agriculteurs ne lâchent pas l'affaire.
Oui, contre le traité avec les pays du Mercosur, l'Europe a donné son feu vert, vous le savez, vendredi, malgré l'opposition de plusieurs pays, dont la France. On parle maintenant d'une signature en bonne et due forme samedi au Paraguay. Les agriculteurs craignent l'arrivée massive des produits, notamment de viande sud-américaine. Et ils le font savoir donc avec de nouvelles actions ce matin encore à Romain Hook.
Oui, notamment sur l'autoroute A1 près d'Arras, où des dizaines d'agriculteurs ont installé hier soir un barrage filtrant et contrôlent les camions de marchandises qui passent par là pour écarter les produits non conformes aux normes françaises, comme l'explique Olivier Sénéchal, le président de la coordination rurale du Pas-de-Calais que nous avons joint ce matin.
L'idée de l'opération, on sait très bien que redescend les denrées alimentaires qui nous viennent des ports d'Anvers et de Rotterdam. Il peut y avoir des produits suspects. On contrôle des poids lourds en même temps. On nous demande de produire avec des certaines normes et on accepte les produits alimentaires venant d'autres pays et qui ne respectent pas leurs normes, et ça on ne le supporte plus. C'est de la concurrence déloyale. Donc on se relaie. Là on a encore du monde. Là dans la journée il y a des personnes qui viennent. On a de quoi tenir.
Même mode opératoire au port du Havre, où depuis hier, environ 150 agriculteurs inspectent les camions qui entrent et sortent. Des blocages d'autoroutes également toujours en cours, par exemple sur l'A64 occupée par des agriculteurs depuis maintenant un mois. Et puis, on a appris il y a quelques minutes la levée du blocage sur l'A63, principal axe entre la France et l'Espagne. Ça s'est passé 100 heures après négociation avec le préfet. Enfin, il y a les dépôts pétroliers. Celui d'Entrelac en Savoie est toujours bloqué par la Confédération Paysanne. Et puis, depuis tôt ce matin, c'est la rocade qui mène au port de La Rochelle, où se trouve également un dépôt pétrolier qui est bloqué par des tracteurs.
Voilà, le RN et les Insoumis ont déposé des motions de censure contre le gouvernement, estimant que la France a été humiliée dans ce dossier du Mercosur. Le PS dit qu'il ne les votera pas. RMC ce matin est en mesure de vous confirmer qu'un député RN a été emmené de force à l'hôpital hier à Vesoul. Antoine Villedieu, secouru dans une rue par un équipage de police. Il était présenté comme extrêmement agité, présentant une plaie à la tête, impossible de déterminer l'origine de cette blessure. Le risque d'avalanche reste élevé ce lundi dans les Alpes, de niveau 4 sur une échelle qui en présente 5 dans de nombreux massifs, après un week-end qui a été dramatique avec la mort de 6 skieurs emportés par des avalanches dans les stations de Savoie, Haute-Savoie, conséquence des fortes chutes de neige ces derniers jours. C'est ce que nous dit Benjamin Roumieux. Roumier, il est pisteur à La Plagne, écoutez-le, La Plagne où un skieur est mort hier.
Avec des accumulations allant jusqu'à 1m20, 1m30, dû au vent. Le résultat, de nombreuses avalanches sont parties. Ensuite, on a un autre phénomène. On a eu à peu près un mois d'anticyclone avec des températures très froides début janvier. Et cet anticyclone a créé des grains anguleux. Et ils ont peu de cohésion entre eux. Et ils font office de couches fragiles. Le risque va perdurer encore les prochains jours. C'est-à-dire que le risque 4, vous avez des avalanches qui vont plus loin, souvent plus grosses. Avec les 93 cm, on peut avoir des cassures entre 60 et 1m50. Suivant les accumulations.
Et après ce week-end dramatique, les 6 morts dans des avalanches, la ministre des Sports, Marina Ferrari, se rend aujourd'hui dans la station de Courchevel. Je signale aussi que le risque d'avalanche est élevé dans la plupart des massifs des Pyrénées.
Il est 8h03 sur RMC et c'est ce matin que démarre la campagne de recrutement du nouveau service national.
Annoncé par Emmanuel Macron en novembre pour enflouer les rangs de l'armée dans le contexte international, le dispositif va monter en puissance dans les prochaines années. Mais alors l'idée là pour 2026, c'est de recruter 3000 jeunes de 18 à 25 ans pour ce service qui est volontaire, rémunéré d'une durée de 10 mois. Mais alors Vincent Chevalier, question pour RMC, dans un centre de recrutement parisien, est-ce que l'armée, ça intéresse encore les jeunes ?
À 18 ans, Antoine ne doute pas de sa motivation à rejoindre l'armée de terre.
C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai peur en fait de m'ennuyer dans un métier normal. J'ai envie de faire quelque chose qui compte en fait.
Des jeunes souvent poussés par leur envie de servir le pays, surtout dans un contexte international mouvementé. C'est le cas de Noémie, chef de projet en communication en pleine réorientation.
Ce qui se passe en ce moment dans le monde peut avoir une incidence un peu sur les réflexions qu'on a en ce moment, nous les jeunes. J'ai encore plus l'impression que ce que je fais actuellement n'a pas trop de sens.
D'après Simon, 24 ans, ce nouveau service national de 10 mois est un bon test avant de s'engager définitivement.
Je pense que c'est super. Déjà d'être payé, de pouvoir faire ça, tout en apprenant pour les métiers de la sécurité et de la défense.
et rencontrant des professionnels, etc.
L'armée aussi, en manque de soldats, compte capitaliser sur ses 3000 jeunes recrues cette année pour des missions très diverses, d'après le commandant chef d'escadron Cédric.
Monter la garde, réaliser des missions sentinelles, mais également utiliser son arme, faire des choses un peu comme ça, mais ça peut être également des métiers du soutien.
Les premières recrues devraient arriver dans l'armée entre septembre et octobre prochain.
Alors le contexte international, c'est notamment l'Iran et les manifestations contre le régime des mollahs depuis 2 semaines maintenant. Internet est coupé depuis la semaine dernière en Iran, c'est dur de savoir ce qui s'y passe, mais une ONG établit sur place un bilan de presque 200 morts. Les États-Unis menacent d'intervenir. Donald Trump a pris la parole à bord de son avion Air Force One. Écoutez-le, c'était durant la nuit.
Les dirigeants iraniens ont appelé hier, ils veulent négocier. Une rencontre est en cours de préparation, mais peut-être que nous allons devoir agir avant cette rencontre. Car il semble que des manifestants sont morts. Donc nous examinons la question d'une intervention très sérieusement. L'armée examine la question, nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision.
Alors aux États-Unis, autre actualité, il y a des renforts policiers qui sont envoyés à Minneapolis après un week-end de protestations dans cette ville, notamment liée à la mort d'une Américaine abattue par la police de l'immigration la semaine dernière. Une autre question ce matin, combien payez-vous chaque mois pour vos abonnements numériques ? Netflix, Deezer, Spotify, la presse en ligne aussi. On vous révèle ce matin sur RMC une étude du service Split qui nous alerte eh bien, sur une facture qui va pas arrêter de grimper là dans les prochaines années pour atteindre quand même les 230€ par mois en 2030. En gros, on aura de plus en plus d'abonnements et de plus en plus cher. La preuve avec Marius Roland pour RMC.
Ilan a des comptes Spotify, Netflix, Disney+, pour un coût assez raisonnable pour le moment.
Je suis autour de 15€.
D'autres investissent davantage dans ses abonnements cinéma, musique ou divertissement. Louis est salarié dans l'immobilier, sa limite de budget est plutôt élevée.
Tout confondu, vous seriez prêt à mettre combien ?
Si je m'intéressais un peu plus à la musique, allez, maximum 100€.
Un enjeu aussi pour les étudiants comme Lina. Parmi ses abonnements, il y en a un qui est bien coûteux.
ChatGPT, ça me coûte à peu près 20€ par mois.
En plus des plateformes pour la musique et les films, 50€ par mois au total, ça commence à chiffrer pour elle.
Ça devient un peu cher, à vrai dire. J'ai l'impression que ça augmente à chaque année en 2026. Bah, ça va encore augmenter.
C'est ce que redoute justement Marcelo Martins, porte-parole de Split.
On se dirige en effet vers une facture de plus en plus salée. On est sur du 10-15% par an.
Selon lui, le prix du streaming vidéo augmente à trop vive allure.
Netflix donc se lance il y a 10 ans plus ou moins. Le prix a augmenté de 83% en France. Il coûtait donc 12€ par mois, on est passé à 22€ par mois.
S'abonner à plusieurs plateformes vidéo similaires pour un maximum de choix, ça pourrait coûter jusqu'à 75€ en 2030 selon l'étude de Split.
Oui, alors ce soir c'est à 21h10 précisément qu'il faudrait être branché sur RMC pour le nouveau derby parisien en 16e de finale de la Coupe de France entre le PSG qui vient de gagner le trophée des champions et le PFC de l'entraîneur Stéphane Gilly.
On va tout faire pour se qualifier, quel que soit l'adversaire. L'objectif, c'est de se qualifier, d'aller le plus loin possible en coupe. D'autant plus contre une équipe comme ça, contre le PSG. Ça serait bien pour le club, ça serait bien pour les joueurs, pour la confiance. On espère leur jouer un mauvais tour, mais pour ça, on sait qu'il va falloir qu'on soit juste et à 100%. Voilà. Donc, mais j'ai bon espoir de faire quelque chose.
Bon, hier, c'est Lyon qui s'est qualifié en 8e en gagnant 2-1 à Lille avec un petit air de Brésil, puisque c'était le premier but de la recrue brésilienne Hendrick qui est prêtée par le Real.
C'était le journal de Quentin Vinet. 8h07, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
Emmanuel, la France est en train de choisir les seniors contre les jeunes. Voilà, oui, la déclaration choc du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.
Alors, il n'est pas le premier à lancer cet avertissement. Hein. Rappelez-vous, François Bayrou, quelques temps avant de quitter Matignon, avait déjà tenu les mêmes propos. Et c'est vrai que si on regarde la photo, bah, il n'y a pas vraiment débat. Alors, il y a toutes les statistiques qui vous montrent que les vieux sont plus riches que les jeunes. Bon, d'accord, mais ça, c'est à peu près la logique. Non, le sujet, c'est que dans aucun autre pays d'Europe, il n'y a autant d'écart entre la situation des jeunes et la situation des boomers. Les retraités français sont les mieux lotis d'Europe, ils ont le niveau de retraite le plus élevé, ils ont la durée de vie à la retraite la plus élevée, alors que les jeunes sont moins bien traités que chez nos voisins. Il y a plus de chômage chez les jeunes que chez nos voisins, les emplois précaires sont plus importants, le niveau de vie est plus faible, les difficultés à se loger sont plus importantes. Retenez bien ces deux chiffres, la précarité est 2 fois plus élevée et le renoncement aux soins 3 fois plus élevé chez les jeunes que chez les boomers. En France, dans aucun pays, on ne retrouve ça. Et puis surtout, ce que fustige le gouverneur de la Banque de France, c'est qu'aucun pays ne consacre autant d'argent public aux seniors que la France pour aussi peu d'investissements pour les jeunes. Hein, sur 1 000 euros d'argent public, presque la moitié pour les seniors, 150 à peine pour les jeunes.
Dans le même temps, les retraités, ils vous disent « Oui, mais bon, on a bossé toute notre vie, on a cotisé, on a bien le droit ».
Oui, sauf que il faut qu'ils soient conscients que aucune génération n'a eu la vie plus facile que celle qu'ils ont eue. Cette génération, elle est devenue propriétaire pour pas cher, et ce patrimoine en plus a doublé de valeur en 20 ans. Elle bénéficie de progrès sanitaires et d'un allongement de la durée de vie sans précédent dans l'histoire, et aucune génération n'a connu une telle augmentation de son niveau de vie par rapport à celle de ses parents, sachant que cette génération, elle a très peu cotisé pour sa retraite, puisque à l'époque il y avait beaucoup d'actifs et des retraités qui vivaient pas si longtemps que ça. Et puis cette génération, elle a vécu en plus ils se sont permis de vivre au-dessus de leurs moyens en creusant une dette de 3000 milliards d'euros en travaillant moins. Le résultat, c'est qu'à 25 ans, un boomer, il avait 1750 euros de dette publique à rembourser. Aujourd'hui, un jeune en a 47 000.
Mais quel enfer! Donc c'est quand même aux retraités qu'il faudrait demander normalement le gros des efforts pour redresser les finances publiques, alors, si j'en crois vos statistiques,
oui,
et vos chiffres.
Oui, alors je vais vous dire un effort, oui, mais attention au retour de bâton. Là, le retour de bâton politique, bien sûr, puisque ce sont quand même les retraités qui votent le plus. Et puis économique, parce que il faut bien rappeler que ces retraités, oui, d'accord, ils nous coûtent cher, mais ils contribuent aussi beaucoup à l'activité à travers leur consommation. Hein. On va rappeler que, je sais pas, 50% du marché des produits de beauté, par exemple, c'est les seniors, 80% voyages organisés, des ventes de camping-cars, des ventes de voitures neuves, c'est les seniors. Ils contribuent aussi à la solidarité intrafamiliale, ils donnent du temps et de l'argent, et puis s'il y aurait, honnêtement, il n'y aurait pas de retraités, il n'y aurait plus d'associations qui fonctionnent en France. Donc l'urgence, plutôt que de dire on va les taper.
En fait, il ne faut pas taper les vieux, il faut aider les jeunes.
Alors, c'est ça, et puis il faut surtout, là, ce qui réglerait tout, c'est cette fameuse grande réforme qu'on attend sur la transmission du patrimoine. Comme ça, ça se ferait sans violence fiscale notamment, et ça redynamiserait tout ce patrimoine improductif, entre guillemets, qui est entre les mains des seniors aujourd'hui.
Merci Emmanuel Lechypre. Chaque matin, l'économie avec Emmanuel, c'est à 8h10. Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. À 8h30, notez que l'invité du face-à-face, ce sera la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Est-ce qu'elle va réussir à calmer la colère des agriculteurs qui sont à nouveau en barrage filtrant, notamment sur l'Ain, et qui bloque des réservoirs du côté du Havre ou de la Savoie. Et puis juste après, comme chaque matin, on a rendez-vous avec Nicolas Canteloup sur RMC, ce sera à 8h50. On se rejoint dans un instant, 8h11, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demanche qui nous rejoint.
Bonjour les amis.
Oui. Apolline, oui. Pascal, Géraldine, oui. Martin, Arnaud, 5 amis qui vous aident à vous réveiller le matin. Oh, c'est sympa comme en début d'ambiance. Car Martin Bourdin est avec nous ce matin.
Oui. Bonjour.
C'est son papa, Jean-Jacques, qui nous l'envoie. Venge-moi, fiston.
Ça fait longtemps, tu vois.
Venge-moi, fiston. Pique la place d'Apolline, elle m'a piqué la mienne. Regarde comment elle fait. Inspire-toi et prends-lui. Ah. Apo, dans un instant. L'espion est là, Apolline. L'espion est là.
Il est si sympa, notre Martin.
Apolline, dans un instant, vous recevez Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, pour une interview plaisir. Ah oui. Et parmi les sujets abordés, on n'a plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs. Les gens en mangent trop parce que c'est la protéine la moins chère et les poules ne peuvent pas suivre. Allez, grouille! Les poules ne peuvent pas pondre aussi vite. Ce n'est pas des mères célibataires de Picardie. Il faut un temps de repos. Quoi. Avec l'accord du Mercosur, l'Amérique du Sud va pouvoir nous envoyer des œufs. Mais bon, les normes ne sont pas les mêmes. Nous, nos œufs, ils sont pondus en plein air, dans des enclos où il y a du Beethoven. Les leurs, en fait, c'est des carcasses de poussins broyées dans un moule en forme d'œuf. C'est comme du surimi. C'est l'arnaque. Car oui, une majorité d'États membres de l'Union européenne ont approuvé l'accord sur le Mercosur, alors qu'Emmanuel Macron avait dit non, c'est pas juste, j'avais voté non. Bah oui, Emmanuel, mais c'est comme ça. Nous, aux dernières législatives, les Français aussi avaient voté non à la Macronie. Pourtant, ça a continué. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, mon vote, il est intelligent, alors que vous votez comme des cons.
C'est ça, évidemment.
Bref, la voix de la France n'est pas entendue. La France, c'est la Carla Bruni de l'Europe. Et Mercosur. Non, 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 non. Comment? Non, non, non. Ouais, on s'en fout. Vous avez déjà été en conseil syndical pour votre immeuble. Il y a toujours un type qui a une chambre de bonne au 8e étage sans ascenseur. Bah là, c'est Macron, ce mec-là. Donc, je propose de faire le ravalement de façade.
Alors moi, je vote non.
Ouais, on s'en branle. Donc c'est un oui à l'unanimité. Alors vous avez vu, il y a quand même quelqu'un qui a été gentil avec Emmanuel Macron ce week-end, c'est Donald Trump. Donald Trump l'a remercié d'avoir bien bien voulu décaler le prochain G7, parce que la date retenue au départ, c'était l'anniversaire du président américain, et ce jour-là, authentique, Trump s'était prévu une petite soirée, un combat de MMA, un championnat d'Ultimate Fighting à la Maison Blanche. Donc il y a la guerre partout, la planète va mal, mais ça attendra, parce que Donald Trump veut fêter ses 80 ans au milieu de jeunes hommes musclés en slip et en sueur qui se foutent des beignes, ou alors il va foutre Maduro à poil avec un short en face d'Éric Zemmour en slip qui sera là. Laissez-moi vous distraire, mon bon seigneur. Joyeux anniversaire, poupou filou.
Oh, j'ai l'image, mon gars. Ah ouais. Donald Trump a déclaré à propos du Groenland et du Venezuela : je n'ai pas besoin du droit international, ma moralité est mon unique limite pour agir dans le monde.
Ouais, la sécurité du monde est donc entre les mains de la moralité d'un ancien pote de Jeffrey Epstein et pire encore d'un ancien agent immobilier. On est foutu, on est mort. Trump, c'est le fils caché de Stéphane Plaza et Vladimir Poutine. Alors la Russie veut annexer l'Ukraine, la Chine veut annexer le Taïwan, les États-Unis veulent annexer le Groenland. Je pense que c'est le bon moment pour la France d'annexer Monaco. Un moment, ça suffit. Sur LCI, il pourrait nous expliquer en détail toute l'opération.
Oui, bien sûr.
Et c'est l'événement sur LCI après ce reportage sur la guerre en Ukraine. Nous sommes avec le général Vincent Desportes, le capitaine Haddock, le général Alcazar, le capitaine America, le colonel Moutarde avec son chandelier dans notre salon. Général Desportes, tout le monde envahit tout le monde. La France pourrait-elle envahir Monaco tant qu'on y est?
Oui, bien sûr. En plus, c'est pas les carabiniers du prince qui vont faire quelque chose, hein. C'est des musiciens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jouer de la trompette très fort. Donc nous avons juste à nous poser devant le palais et crier « Rendez-vous, prince Albert! Vous nous faites pas peur avec votre nom de piercing au zizi !»
Oui, alors... c'est quand même ça, hein. Alors, quelles sont les plus grandes difficultés dans ce type d'attaque?
Ah bah, à Monaco, le plus compliqué, ça va être de trouver des places de stationnement pour les chars et des chambres d'hôtel à moins de 10 000 euros pour les soldats. Parce que là, avec la baisse du budget, on est ric-rac.
On me dit que les soldats français se font attaquer par des Russes.
Ouais. Toutes ces escortes russes présentes au bar d'hôtel qui tentent de faire monter nos soldats dans leur chambre pour les déconcentrer, elles les torturent. Non. Il y a des menottes, hein, mais c'est pas déplaisant, me disait Martin Bourdin.
Ouais, on pourrait agrandir facilement notre territoire. On devrait se poser la question.
Bien sûr.
Allez,
bien sûr.
À demain. Une bonne interview avec Annie Genevard.
À demain, Arnaud Demange, tous les jours, 7h20, 8h20. Il est 8h19 avant d'interviewer Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Je voudrais donner la parole à Philippe qui nous appelle de Casillac dans le Lot. Bonjour Philippe.
Oui,
Philippe,
bonjour,
vous êtes à la fois agriculteur et boulanger. Qu'est-ce que vous voulez lui dire tout à l'heure là, à la ministre de l'Agriculture ?
Mais moi, je voudrais dire qu'on est attristé par tout ce qui se passe parce que elle veut calmer la colère agricole. D'abord, merci de nous donner la parole, d'ailleurs, sur le terrain à RMC.
Évidemment, évidemment.
Voilà. Et moi, je voudrais vous dire, elle veut donner, elle veut calmer la colère agricole avec donnant des milliards, des millions, des 300, des 400, mais c'est elle a pas compris ce que veulent les agriculteurs. Les agriculteurs, ils veulent la souveraineté alimentaire et vivre de leur métier. Voilà. Parce que ce qui est grave, c'est que quand on va, cet accord va être adopté, on va perdre la production d'élevage en France. Ça, c'est sûr. Et alors après, bien sûr, il y a tout le reste qui va, le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, on a les incendies partout en France, parce qu'il n'y a plus d'élevage. Dans les alpages, dans la province, tout ça, avant, il y avait des élevages. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et demain, ça va s'accentuer. Et il faut savoir aussi, c'est que s'il y a un conflit dans le monde, la réserve alimentaire en Europe, c'est 15 jours. Donc ça veut dire qu'on a bien vu quand même pendant le Covid que dès qu'il n'y a plus de production ou qu'il n'y a plus de transport, tout est vide assez rapidement. Donc la ministre de l'Agriculture, je me demande si elle a conscience, si elle se regarde dans la glace de temps en temps parce qu'elle ne prend pas l'enjeu de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui sur les agriculteurs mais sur le pays.
J'entends votre inquiétude, Philippe. Si je résume, il y a la question effectivement de votre propre rémunération, du fait de pouvoir produire, mais vous parlez aussi de la question de la souveraineté du pays, la souveraineté alimentaire du pays. Philippe, vous faites quoi, vous, dans la vie? Vous êtes producteur? Vous êtes éleveur?
On est producteur. Nous, on est au nord du département du Lot, à Casillac. On fait du veau de lait. On fait du veau de lait, du veau de lait assez haut de gamme. Ouais. Voilà, du veau blanc, qu'on vend à un prix assez correct. Ouais. Mais il faut qu'on garde nos élevages. Voilà. On a perdu en 10 ans, on a perdu 1 million de vaches en 10 ans. Vous voyez, quand il y a eu l'accord de Nouvelle-Zélande pour les ovins, on a perdu 1 million d'ovins dans les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, on importe de la viande ovine parce qu'on a plus d'élevage. On a plus d'élevage. Regardez ce qui se passe dans les œufs.
Ah,
on
j'allais le dire.
On peut plus faire un bâtiment. C'est une catastrophe. On est en train de tout détruire dans ce pays.
Ce que je trouve très intéressant, Philippe, vous le dites, c'est cette question des œufs. Pour moi, elle est finalement le symptôme vraiment de ce qui ne va pas en France. On a mis des normes qui sont formidables, qui partent d'une très bonne intention, mais on n'a pas donné les moyens de l'autre côté aux agriculteurs de pouvoir respecter ces normes. Ils doivent attendre jusqu'à 2 ans pour pouvoir adapter leur bâtiment et pendant ce temps-là, on n'a plus d'eux. Merci beaucoup Philippe, je pose justement la question à Annie Genevard, elle est mon invitée dans un instant, la ministre de l'Agriculture, ça se passe sur RMC et BFM TV, 8h22.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin, face à face,
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28, si vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Annie Genevard.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de la souveraineté alimentaire en France, avec évidemment cette colère des agriculteurs. Ils sont encore ce matin avec des barrages filtrants sur l'Ain, quelques blocages sur le port du Havre, en Savoie. On va y revenir dans un instant. Ils continuent à être en colère et notamment sur le Mercosur. Reste-t-il d'ailleurs une possibilité pour que cet accord n'entre pas en vigueur? Je vous pose la question dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger sur les œufs. Les œufs parce qu'il semble que ce soit au fond le symptôme de ce qui ne fonctionne pas ici. Vous l'avez peut-être remarqué, ou en tout cas ceux qui nous écoutent et qui nous regardent l'ont remarqué, c'est sûr. Il manque des œufs dans les rayons. Il y a même des rayons qui sont vides, qui n'ont plus d'œufs. Alors oui, il y a eu le problème de la neige et de l'approvisionnement, mais il y avait une très grande tension sur les œufs. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'on va simplifier la possibilité pour les agriculteurs de produire des œufs?
C'est très symptomatique, la crise de l'œuf. Les Français consomment de plus en plus d'œufs parce que c'est une protéine pas chère. Mais on n'en produit pas assez. Et pour quelle raison? C'est parce que c'est trop compliqué aujourd'hui d'installer des bâtiments d'élevage, des poulaillers. D'une part parce que la réglementation est très contraignante et la loi visant à lever les entraves, la loi dite Duplon, permettra, dès lors qu'elle sera parfaitement appliquée, de pouvoir lever une partie des freins qui pèsent sur l'installation de bâtiments d'élevage. Vous savez aujourd'hui que la réglementation sur un poulailler, c'est comme si c'était un bâtiment industriel, une industrie sensible.
Mais c'est pardon, Annie Genevard, continuer. C'est la France qui s'étire le balancier toute seule.
Mais bien sûr, la France surtranspose, la France complique la vie des agriculteurs. Et moi, mon travail depuis que je suis arrivée, j'ai inscrit la simplification au fronton de mon ministère.
Mais dans les faits, cette histoire est quand même délirante. Pourquoi effectivement on manque d'œufs? Vous le disiez, il y a une question de pouvoir d'achat, c'est de la protéine pas chère. Dans le même temps, on a donc contraint tout seul, personne ne nous le demandait, ni l'Union Européenne, ni personne d'autre. C'est pas la faute du Mercosur ou de qui que ce soit. On a mis en place un objectif, et c'est dans la loi française désormais, d'atteindre 90% de poules pondeuses élevées dans des systèmes d'élevage alternatifs à la cage. C'est très bien,
oui.
C'est très vertueux.
Oui.
Sauf que dans le même temps, on met en moyenne 2 ans pour un agriculteur pour pouvoir adapter ses locaux. Donc on se retrouve avec une courbe qui se croise,
oui.
Plus de demandes, moins d'offres, on produit moins.
Oui.
Vous avez
parfaitement résumé la situation et c'est la raison pour laquelle moi j'ai défendu cette loi Duplon-Menonville dont vous savez à quel point elle a hérissé le poil des écologistes les plus idéologues, les plus radicaux, mais en réalité elle pointait du doigt effectivement un problème franco-français. Mais je veux ajouter une chose, si vous permettez, Apolline de Malherbe. Il faut aussi que les Français acceptent qu'on construise des poulaillers. Il y a 4 projets là de poulaillers qui sont retoqués parce que les Français ne veulent plus voir de bâtiments d'élevage parce qu'ils considèrent, pour certains d'entre eux qui connaissent mal le sujet, que c'est un lieu où on maltraite les animaux. Voilà, c'est devenu un problème véritablement qui est un handicap profond et auquel il faut qu'on apporte des solutions.
On va y revenir sur la question, au fond, ce que vous dites d'une forme presque de... les syndicats, et notamment la coordination rurale, estiment aujourd'hui qu'il y a une sorte de contamination, c'est leur expression, écolo dans l'esprit des Français et des politiques. Mais pardon, vous avez dit, la loi Duplon, vous avez commencé par dire « permet désormais ».
Oui.
Mais vous vous êtes reprise et vous avez dit « permettra ».
Oui, parce que
qu'il n'y a toujours pas les décrets.
Parce que fin janvier... Vous savez, il y a des procédures.
Qu'est-ce qu'on attend?
Mais oui, mais il faut bien considérer que d'abord, il y a un temps incompressible durant lequel les lois trouvent leur expression sur le terrain, dans la réalité des choses. Bon, il y a le Conseil d'État, il y a les consultations publiques.
Là, c'est un, ça c'est, date d'avant l'été dernier.
Mais oui, mais ça, c'est le fonctionnement de nos institutions. Donc nous, on bouscule le calendrier parce qu'effectivement, il y a une forme d'urgence. La colère des agriculteurs, elle est profonde. Leurs revendications sont légitimes nous les entendons au plus haut niveau du gouvernement. Et elle me touche, cette colère. Mais il faut apporter des solutions.
Annie Genevard, moi, je veux pas de blabla. Là, on est quand même dans un moment où on se rend compte qu'il y a des intentions d'un côté et il y a la réalité de l'autre. La réalité, et quand on dissèque cette problématique de l'œuf, on s'en rend bien compte. Vous dites, ça va aller plus vite, mais ça fait des années que vous leur dites, et les décrets, encore une fois, ne sont toujours pas.
Non, la loi était.
Pouvez-vous vous engager à ce que les décrets de la loi du plomb soient effectivement publiés avant la fin
En tout cas, sur les ICPE, les installations classées pour les bâtiments d'élevage, oui, les décrets seront pris avant la fin du mois.
Pas pour toute la loi, j'en déduis, puisque vous précisez qu'il y a un morceau qui passera, pas les autres.
Mais en tout cas, celui-là, il est extrêmement attendu. Mais le législateur a voulu des consultations publiques, a voulu une gestion interministérielle des sujets. Il y a beaucoup de sujets qui relèvent de l'agriculture, mais il y a beaucoup de sujets qui relèvent aussi d'autres ministères. Et donc, cette dimension interministérielle, elle est un fait. On fait avec ce que... Mais au fond, les agriculteurs se moquent de tout cela. Les agriculteurs veulent des résultats tangibles. Et je peux leur dire... Prenons un autre exemple, la question de l'eau, qui est une question extrêmement sensible. La simplification, nous l'avons décrétée, le Premier ministre a pris un engagement très clair, on réduira le contentieux, et lorsqu'il y aura des recours abusifs contre des projets de stockage de l'eau, eh bien, ceux qui feront preuve d'un recours abusif pourront être poursuivis.
Vous l'avez dit, tous les dossiers hydrauliques bloqués actuellement seront réétudiés pour les débloquer le plus vite possible. Le plus vite possible, ça veut dire quand ?
Le plus vite possible, ça veut dire qu'il faut réduire le temps du contentieux. C'est un engagement que le Premier ministre et moi avons pris devant les agriculteurs. Parce que beaucoup de projets de stockage de l'eau font l'objet de recours de la part de ceux qui ne veulent pas du tout de stockage. Et c'est un vrai scandale parce qu'il y a des régions françaises, et en particulier l'Occitanie, où il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de production agricole et il n'y a pas de souveraineté alimentaire.
Encore de très nombreuses questions très concrètes à vous poser. Mais le Mercosur d'abord. Vendredi, Ursula von der Leyen partira au Paraguay pour signer officiellement le traité samedi. Est-ce que c'est fichu ?
Pour le paraffer, hein, la ratification, elle sera une fois que le Parlement se sera prononcé, le Parlement européen.
Vous êtes sûr de ça ?
Ah ben oui, le Parlement européen se prononcera sur le Mercosur.
Parce que vous l'avez vu, un certain nombre de députés européens, et notamment Céline Imar, hein, qui est de la même famille politique que vous, elle est de la famille des Républicains, elle a tweeté « Alerte Mercosur, écœurée, j'apprends que la présidence chypriote a retiré du vote la déclaration qui suspendait l'entrée en vigueur du Mercosur jusqu'au vote du Parlement. Oui. Cet article serait absent du traité tel qu'il a été signé, est-ce vrai ?
Ce qui se passe, c'est qu'il était convenu que le Parlement se prononce avant l'application provisoire. Voilà. Et la présidence chypriote, effectivement, a retiré cette possibilité, qui était dérogatoire parce que l'application directe est de droit commun. Pour permettre que le Parlement s'exprime avant l'application provisoire, il faut une délibération. Et c'est cette délibération
qui a été retirée.
Mais
attendez, Annie Genevard, ça veut dire que samedi, quand ce sera signé, c'est d'application immédiate ?
C'est d'application provisoire. Ça peut être d'application provisoire.
Et c'est... Ça sera d'application immédiate. Samedi soir, ça s'applique.
Ça peut être d'application provisoire immédiate. Effectivement, parce que c'est le droit commun.
Ça veut dire quoi, ça peut ? Ça le sera ou ça le sera
pas ? Écoutez, moi, je ne sais pas. La conférence des présidents, vous savez que chaque séance du Parlement est précédée d'une conférence des présidents. Cette conférence des présidents déterminera ou non si ces dispositions...
Enfin, ça a l'air assez mal parti, ça veut dire qu'en réalité...
On verra à la conférence des présidents ce qui est inscrit véritablement à l'ordre du jour. Moi, je considère que la démocratie impose que le Parlement soit consulté, soit consulté à toutes les étapes de la procédure. Mais in fine, moi je dis à Céline Imar, je dis à mes amis républicains, je dis à tous ces parlementaires européens, c'est vous maintenant qui avez la main. C'est vous qui avez la main et vous devez convaincre autour de vous, effectivement.
Je suis quand même assez surprise, Annie Genevard. Ça veut dire que non seulement la voix de la France n'a pas été entendue, mais ça veut même dire que les quelques garde-fous qu'il y avait ont été volontairement supprimés de ce traité.
Non, alors, je vous reprends sur ce point. Je voudrais vous dire, parce que moi, ça fait des mois maintenant que je sillonne les capitales européennes pour convaincre nos partenaires de ne pas voter ce projet d'accord, que j'ai toujours considéré comme mauvais, parce qu'il expose des filières qui sont très sensibles chez nous, le bœuf, la volaille, justement, l'éthanol, le sucre, le miel. Et en même temps que la France se battait pour que l'accord ne soit pas signé, nous nous sommes battus aussi pour imposer la clause de sauvegarde, la réciprocité des normes, l'augmentation des contrôles. Ce sont les combats de la France. Le projet d'accord tel qu'il sera paraphé au Paraguay n'est pas le même que celui qui a été paraphé à Montevideo il y a un an. C'est pas le même et c'est à la France qu'on le doit. La France à la fois a fait bouger les lignes et en même temps, elle a exprimé un choix courageux, un choix qui défend le monde de l'agriculture, parce que c'est un combat noble, un combat juste, et qui, même si on est... Vous savez, l'Union européenne, c'est 27 États souverains. Tout le monde n'a pas la même agriculture en Europe. Et c'est pas un hasard si la Pologne, la Hongrie, l'Irlande, l'Autriche, la Belgique nous ont rejoints parce que ce sont de grands pays agricoles comme nous. Mais c'est pas parce que on risquait d'être minoritaire que ce combat fallait pas le mener. Nous l'avons mené et nous avons fait bouger des lignes. Alors évidemment, je vais pas vous dire le contraire. On aurait préféré que l'accord ne soit pas adopté. Mais je peux vous dire une chose, Apolline de Malherbe. C'est que ce combat que nous avons mené, que j'ai mené personnellement avec Benjamin Haddad, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, fait que les prochains accords de libre-échange que l'Union européenne conclura au nom des pays membres ne seront pas les mêmes qu'avant ces négociations sur le Mercosur.
Au fond, ce qui m'intéresse, c'est les effets concrets. On l'a bien compris, vous avez parlé d'un nom puissant. Ce nom, il a été quand même globalement impuissant à faire empêcher ce traité qui donc sera signé samedi et vous le confirmez ce matin, qui entrera en vigueur immédiate, tout en pouvant être suspendu si le vote du Parlement le 20 janvier prochain votait contre.
Non,
est-ce que là-dessus je suis...
L'application immédiate n'est pas certaine. Tout dépendra de ce qui se passera au Parlement le 20 janvier. Tout dépend. Bah, écoutez, moi je dis à tous mes amis républicains, je dis à tous ceux aussi qui nous donnent des leçons matin, midi et soir, faites la preuve que vous pouvez mobiliser au Parlement pour obtenir que le Parlement s'exprime et empêche l'application provisoire et surtout, voilà.
Vous appelez tous les députés européens français à voter contre. Annie Genevard, autre question très concrète, vous vous étiez engagée et vous avez pris cet engagement vis-à-vis notamment des agriculteurs à interdire l'importation de fruits venus d'Amérique du Sud qui comprendraient des résidus de produits interdits ici. Vous parliez notamment de l'avocat, de la goyave, de la mangue. J'ai posé la question
de
à la grande...
pomme, de la poire...
J'ai posé la question à la grande distribution cette semaine et notamment à Alexandre Bompard à la tête de Carrefour. Il dit en fait c'est théorique puisque dans les faits ça n'existe déjà plus.
Bah, ça veut dire peut-être que chez Carrefour, il y a peu de produits importés de cette nature. On verra bien. De toute façon, vous savez, les Français demandent à ce que les agriculteurs soient soumis aux mêmes et les mêmes règles que les agriculteurs étrangers. Et la réciprocité des normes en matière de produits phytosanitaires, ça me paraît être une exigence sanitaire et économique minimale.
Évidemment. Évidemment, mais le problème, c'est aussi nos voisins dans ce cas, pas seulement l'Amérique du Sud.
Ah non, mais c'est
l'Espagne, c'est l'Allemagne, c'est la Hollande. Mais là, vous parlez.
Ces produits sont interdits partout dans l'Union européenne.
Là, oui, mais les autres. En fait, à partir du moment où on applique cette logique-là, pourquoi on l'applique pas à nos voisins?
Alors, parce que on a surtransposé, précisément. On s'est mis un boulet, un de plus, au pied. Et moi, mon travail, c'est d'enlever les boulets, les uns après les autres. Mais vous avez vu le combat. Moi, je me suis exposée dans le combat sur l'acétamipride, qui est devenu un objet irrationnel. Il est utilisé partout dans l'Union européenne. Quand je vais voir les arboriculteurs et qu'un arboriculteur producteur de pommes me dit en larmes, voyez ma récolte, parce que j'ai pas pu traiter les ravageurs. Moi, je dis à tous ceux qui nous donnent des leçons en la matière, je leur dis, allez discuter avec les arboriculteurs, osez leur dire en face, nous on a raison, votre récolte elle est perdue, mais c'est pas le problème. Le problème c'est d'interdire une substance que tous les pays européens autorisent, à moins de considérer qu'ils empoisonnent
tous. Soit on interdit à tout le monde,
évidemment.
Soit on l'autorise pour tout le monde.
Évidemment.
Sur cette question des importations d'Amérique du Sud, vous aviez parlé d'une brigade oui. qui allait être mise en place oui. pour vérifier. Ça va se passer comment? Et cette brigade, c'est combien de personnes?
Alors, dès qu'on sera sorti de la du processus Brexit, c'est-à-dire, vous savez que à la suite du Brexit, on a conclu des accords, l'Union européenne a conclu des accords avec le Royaume-Uni. Donc, ça va libérer des personnels qui étaient dédiés au contrôle des importations britanniques. Donc, avec ces personnels-là, je vais pouvoir monter.
C'est quand? C'est quoi le calendrier?
Oh, bah, c'est imminent, hein. C'est dans le premier trimestre ou le premier semestre de 2026. Et puis, je vais faire ce travail avec Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Douanes.
Ça veut dire que vous n'allez pas recruter en particulier, vous attendez qu'ils soient libérés d'autres missions?
On va à la fois utiliser, parce que on partage avec la ministre des Douanes cette compétence du contrôle des denrées importées. Donc, on va se mettre d'accord pour mettre sur pied cette brigade le plus vite possible, parce qu'on voit bien que les mouvements de blocage sur le port du Havre ou dans le nord de la France pointent du doigt le sujet des contrôles. Et les contrôles, ben, c'est la
responsabilité. Barrage Seltran sur l'Ain, blocage du port du Havre et oui. un blocage de dépôt de carburant.
C'est la responsabilité de l'État. Et moi, je comprends tout à fait que les agriculteurs mettent l'accent sur cette question des
contrôles. Mais Annie Genevard, sur cette question
notamment
des contrôles.
Notamment sur les contrôles qui viennent des ports du Nord, des ports européens du Nord, par lesquels transitent les denrées importées.
C'est là encore une question, j'allais dire, où on a été nous-mêmes les artisans de notre propre faiblesse. C'est que, comme vous le dites, nous n'avons pas assez de personnes pour contrôler. Donc, on est obligé d'attendre qu'ils soient libérés d'une mission pour pouvoir s'occuper d'une autre.
Non,
dans le même temps, Annie Genevard, il ne vous aura pas échappé également qu'on a promis davantage de contrôles sur les petits colis, c'est les mêmes. C'est tout ça à durée à peu près stable, parce que vous savez combien de nouveaux douaniers vont être recrutés cette année? 18.
Ah non, mais moi...
18 pour la France.
Non, mais ce sera une brigade beaucoup plus nombreuse. Permettez tout de même, je viens de l'annoncer. Bon. C'est une démarche qui est forte, une annonce qui est forte. Quand on va se mettre à contrôler avec plusieurs dizaines de douaniers, de personnel dédié, alors à la fois sur les analyses qu'on va faire sur les produits importés, puis contrôler aussi qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la francisation, qui est un délit, hein.
C'est quoi la francisation? C'est faire semblant que ce sont des produits français.
Faire passer pour français des produits qui ne le sont pas.
Parce qu'ils seraient passés juste sur une étape en France.
Voilà.
Annie Genevard, mercredi, il y a deux motions de censure qui seront examinées, du RN et de la France Insoumise, contre le Mercosur, voulant censurer le gouvernement. Mmh. À cause du Mercosur, comment vous réagissez à ça et qu'est-ce que vous dites aux députés français?
Moi, je dis que c'est d'un cynisme et d'une incohérence absolue. Enfin, songez que à propos du Mercosur, on dépose des motions de censure. Pourquoi? Pour condamner un vote qu'ils appelaient de leur vœu? On a voté non. C'est complètement, c'est vraiment de la petite politique. Parce que si le gouvernement est censuré, ce qui est en jeu, les 130 millions. Annoncé pour la viticulture qui est exsangue budgétairement, financièrement. Les 40 millions du fonds d'urgence pour les grandes cultures qui ont eu des récoltes désastreuses et qui sont confrontées à une augmentation de leurs charges. Le triplement du fonds hydraulique qui va permettre d'apporter de l'eau là où elle n'est pas. Le doublement de l'aide que je vais apporter aux éleveurs dont les animaux sont bloqués en raison de la dermatose.
Tout ça ne serait pas appliqué, faute de budget.
Tout ça ne sera pas délivrable, faute de budget. Donc, tous ces parlementaires-là de la viticulture, je leur dis, hein, il y en a beaucoup du Rassemblement National, vous voulez censurer le gouvernement. Qu'est-ce que vous allez dire à vos viticulteurs demain qui attendent le déblocage des aides à l'arrachage pour essayer de diminuer la
Donc
production.
Donc vous les appelez à la cohérence. Annie Genevard, une dernière question. La DNC, vous venez d'en parler, il n'y a toujours pas de nouveaux cas. C'est stable?
Non, ça c'est va. Stable. Il n'y a plus de cas actifs de DNC dans le pays. L'épidémie, l'épizootie est sous contrôle. Même si je veux dire à quel point je mesure que c'est une épreuve terriblement douloureuse.
Mais au moment où on se parle, Annie Genevard, il n'y a pas de nouveaux cas. L'épidémie est sous contrôle.
Il n'y a pas de nouveaux cas. Mmh. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le froid nous y aide. Et surtout la vaccination. Le Premier ministre et moi, nous étions engagés à ce que la vaccination soit la plus rapide possible. Presque 90% en 3 semaines. C'est un exploit qui va permettre d'installer l'immunité collective.
Merci Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, d'avoir répondu à mes questions. 8h27 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Annie Genevard, mon invitée ce matin, la vraie, est restée avec nous. Rebonjour Annie Genevard.
Rebonjour.
José Bové, tiens, est là pour lui dire un petit mot.
Oui, tout à fait. Nous avons, j'ai besoin de saluer Annie Genevard, parce qu'à la France, nous avons des problèmes. Nous avons un peu Mercosur avec le soulier de l'Union Européenne. Pour tout parler de nos opinions, parce que la crise agricole en colère, production des œufs, mais il n'y a pas que production de tonne de lisier et du fumier à partir de lisier de porc.
Oui, bien sûr, on comprend bien. Oui, bah, parlons de la nématose bovine également. Vous pensez qu'il y a d'autres solutions que l'abattage, monsieur Bové?
Mais bien sûr, pour l'abattage, il y a d'autres solutions. Il y a des boutons, il y a les crèmes exfoliantes gays Nivea, pendant le sérum Revitalif de L'Oréal avec son propre recteur, donc des pommades anti-cernes, rétinol actif, des bibiactol, adolescents pour la donc pour les boutons, on appuie, ça chic, une bonne appétit, l'ami du petit déjeuner, les méricorées.
Merci, je vous ai Annie Genevard était donc mon invitée ce matin. Madame la ministre, bonjour, les œufs, on a un problème avec les œufs, madame la ministre.
Je voudrais vous parler des œufs. Nous avons effectivement un gros problème en France avec la production des œufs. Savez-vous, madame de Malherbe, et je le dis à tous les Français qui nous écoutent, que la production des œufs est confiée à des oiseaux. Ce sont des gros oiseaux à plumes. Pourquoi confie-t-on cette lourde responsabilité à des oiseaux? Alors qu'on le sait, c'est quand un oiseau? Ce sont les agriculteurs qui ont la connaissance de la production des œufs. À Bruxelles, voyez, c'est Bruxelles qui décide. Or, à Bruxelles, pardonnez-moi, mais ils savent pondre des normes, pas des œufs. Moi, mon travail, quel est-il, mon travail? Mon travail, il est d'enlever les boulets de nos agriculteurs. Oui. Nous avons trop de boulets en France, trop de boulets élevés en batterie.
Merci, madame la ministre. Merci, madame Genevard.
Non, je continue. Ah, oui. Parce que je suis inarrêtable. Ah, oui. Infatigable. Nos agriculteurs ont des difficultés administratives, des difficultés climatique, des difficultés de trésorerie, des difficultés de la concurrence avec les pays voisins, on le voit, des difficultés aussi, il faut le dire, familiales.
Oui.
En effet, avec leur absence prolongée pour cause de barrages routiers, oui, de montée sur Paris, nous avons constaté, madame de Malherbe, une forte recrudescence des adultères dans les fermes.
Ah, oui.
Il n'y a qu'à voir le nombre d'hommes trompés qui portent aujourd'hui des bonnets jaunes.
Ah, oui, bien sûr, le
face à toutes ces difficultés de la profession, la vraie question, quelle est-elle? C'est pourquoi reste-t-il dans la profession d'agriculteur alors qu'il y a tellement de thunes à se faire avec la crypto-monnaie?
Oui, alors là, je suis pas sûre que vous allez les calmer. Merci en tout cas d'être venue nous voir. J'ose vous couper, madame?
Allez-y, je
oui,
vous
en... madame, je parle.
Mais je voudrais dire également...
Oui, oh, ça va, merci. Stéphane Bern est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane.
Oh oui, bonjour Apolline. Bonjour madame Genevard, vous êtes restée, vous êtes formidable. Écoutez, en cette matinée où nous parlons agriculture, je suis la personne qu'il vous enfants. Ah oui. Les paysans, ça me connaît. Mes ancêtres en avaient plein. Ils avaient tout un gueux de troupeau. Un troupeau de gueux, pardon. Allez, c'est parti pour les titres. Donald Trump, vous le savez, envisage désormais d'acheter le Groenland. C'est l'école Epstein. Donald est toujours prêt à payer pour une nouvelle conquête. Et puis, afin de dissuader Trump d'en parler tous les jours, le Danemark malin annonce qu'il va rebaptiser le Groenland en Epsteinland. Oh oui, ça va le calmer, mon Donald, il va moins en parler. Et puis sport, on connaît désormais les quatre demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria. Éric Ciotti souhaitait réagir.
Ah, il est avec nous.
Oui, bonjour. Écoutez, je voulais, oui, une fois... c'est pas rigolo de rire sur ma taille, Mme Genevard. Je voulais une fois... Pas sur le physique, Mme Genevard. Une fois n'est pas coutume, je voudrais féliciter les Nigérians pour leur magnifique performance. Hein, ils ont réalisé ce que je rêve de faire depuis toujours, éliminer les Algériens. Ça, et bien sûr également éliminer Christian Estrosi.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, merci Monsieur Ciotti et merci à Stéphane Bern. On parle toujours d'agriculture. Pour calmer la colère des éleveurs, la ministre de l'Agriculture a donc annoncé que le quota du nombre de loups abattus augmentera de 10% afin de protéger les moutons. Laurent Wauquiez voulait réagir. Bonjour Laurent Wauquiez.
Oui, bonjour madame. Bonjour Annie Gendard. Qui je vois s'essuie les lunettes, s'essuie les larmes sous ses lunettes, ça veut dire que je la fais beaucoup rire. Elle anticipe les rires, c'est très bien. Écoutez, c'est une très bonne mesure, mais il faut élargir l'abattage des loups. Au-delà de l'abattage des loups, il faut que l'on puisse, dans ce pays, faire baisser de 10% la population, non seulement des loups, mais également de tous ceux qui égorgent des moutons. Et le plus vite possible, avant le ramadan.
Oh, et cette décision, elle fait bondir les écologistes aussi, d'ailleurs.
Mais on s'en fout des écologistes. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les écologistes? Bloquer les rues de Paris avec leurs vélos cargo et leurs trottinettes, c'est ça? Organiser le blocage des grands axes parisiens en jouant au molki sur les Champs-Élysées, c'est ça? Hein, vider leurs petites toilettes sèches devant le ministère de l'Agriculture, hein? Vous pensez que c'est ça qui va arrêter Annie Genevard et le gouvernement? Non. De toute façon, le temps que les écolos finissent de bruncher... Avec un avocado toast à 32 euros et un kombucha qui pue à 11 euros, croyez-moi, la loi sera passée. Et bien heureusement.
Merci Laurent Wauquiez. Il est presque 9h, bientôt l'heure des grandes gueules. Quel est le programme aujourd'hui, Alain Marchal?
Bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous recevrons Daniel. Daniel de Porquerolles nous apportera son regard sur les manifestations en Iran, puisqu'il fait partie des rares qui ont eu le courage de regarder en version originale sous-titrée, pardon, un film iranien. Et puis, politique, quelles conséquences en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale? Nous en parlerons avec Tiffany, qui est prothésiste ongulaire à Beauvais et qui, justement, utilise elle-même au quotidien du dissolvant. Et puis la mobilisation des agriculteurs, Annie Genevard est avec nous aujourd'hui, se poursuit un peu partout en France et nous l'évoquerons avec Monique de Paris qui est bien placée pour en parler puisqu'elle achète depuis plus de 20 ans du beurre de la marque Paysan Breton. Vous voyez, les meilleurs experts sont dans les grandes gueules.
Je le vois, merci Nicolas. Pour ça, comme de demain à 8h50 sur RMC. Et à tout moment en podcast. Merci Annie Genevard d'être restée avec nous dans un instant. Les GG avec Alain Marchal Lebray.
Eh bien, les grandes gueules, ce sera avec l'avocat Charles Consigny, le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy, la coach de vie Joël Dagosséry. À tout de suite.